Il alla jusqu'au frigo dans la cuisine, attrapa une Stella, la décapsula, s'écroula dans le fauteuil, il regarda autour de lui, soupira. L'appartement, sa vie, le foutoir. Ne me dites pas que ça ne vous est jamais arrivé, ce truc. Peut-être pas avec une Stella, en tout cas, moi, je vois très bien. Et avec la Stella. Bon, je ne la répéterai plus, cette marque de bière, on est quand même sur une radio libre et sans pub, mais pas sans pub, puisque je vous emmène en Angleterre. Stephen Larkin, c'est lui le type devant le foutoir et journaliste, maintenant et avant. En alternance, un chapitre maintenant et un chapitre avant, et ainsi de suite. Maintenant, c'est le début des années 2000. Le livre a été publié en 2003 en Angleterre, traduit en France 10 ans plus tard en rivage thriller, et il vient de sortir en poche rivage noir. Une sacrément bonne idée pour celles et ceux qui, comme celui qui en ce moment même, et vous y avez droit chaque semaine, vous repeint les oreilles en noir. Une sacrément bonne idée, donc, pour celles et ceux qui étaient passés à côté de ce roman noir qui devrait occuper une place de choix dans la bibliothèque des amateurs du genre. Seul, buvant, réfléchissant, je cite, c'est Stephen Larkin qui nous resitue l'avant, 1984, 17 ans plus tôt, la grève des mineurs. Et il pense en particulier au reportage qu'il a alors signé, c'est d'ailleurs tout ce qui est resté de ce qu'il avait écrit, sa signature, reportage sur les grévistes de Coldwell. Ne cherchez pas sur une carte, la ville de Coldwell, elle est fictive, explique l'auteur Martin Waits, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, ajoute-t-il. Une manière de dire que cette grève des mineurs, elle, a bien existé, avec une intransigeante, le mot est faible, Margaret Thatcher, qui y est devenue la dame de fer, et une pression particulièrement dure, même si ce sont les mineurs grévistes que l'on a fait passer pour des voyous. Ces histoires d'ouvriers et de salariés que l'on fait passer pour des voyous, ce n'est pas nouveau. Coldwell, donc, Stephen Larkin y revient 17 ans après pour écrire un livre sur cette grève. Il va retrouver des gens qu'il a côtoyés à l'époque. Un joueur de foot de Newcastle dont la carrière a été brisée par un coup de marteau sur le genou. Joueur de foot reconverti dans le travail social auprès des drogués, d'anciens mineurs dont la vie est partie en lambeaux, des criminels qui ne se posent pas de questions sur l'origine sociale de leur cible. Il retrouve aussi sa sœur qui étouffe dans un carcan petit bourgeois. Mais ce retour de Stephen Larkin, c'est l'occasion pour l'auteur de mener de savants allers-retours entre cette fameuse grève et aujourd'hui, au travers de quelques personnages qui portent d'une manière ou d'une autre les traces de la fin brutale, socialement et humainement, de la fin brutale de l'exploitation minière. Né sous les coups de Martin Waits, Rivage Noir numéro 998, une traduction d'Alexis Nolan, deux bonnes nouvelles. La première concerne Martin Waits, né sous les coups et réédité au moment de la sortie en Rivage Thriller de son deuxième roman, La Chambre Blanche. Il va être dur d'attendre l'édition de poche pour le lire. La deuxième bonne nouvelle, concerne Rivage Noir, vous avez bien entendu, né sous les coups et numéroté 998. Ce roman n'était sans doute pas loin de faire un numéro 1000, ce n'est pas le cas, et on attend impatiemment le choix de François Guérif, monsieur Rivage Noir, pour le 1000e, hautement symbolique, d'une collection exemplaire. Lisez bien, avec mes salutations les plus Rivage Noir, c'est noir.